Bonjour à tous, bienvenue. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux auditeurs de Radio Espérance qui se joignent à nous pour ce début des rencontres de Parel Monial. Alors aujourd'hui, nous commençons donc ces rencontres de Parel qui sont centrées sur une thématique particulière, à l'école du cœur de Jésus avec les psaumes. À l'école du cœur de Jésus avec les psaumes. Les psaumes étant donc un chemin privilégié pour s'approcher de ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il s'est consumé pour montrer son amour. Alors il y aura divers enseignements, et puis certains moments, comme aujourd'hui l'heure sainte, mais ça j'en parlerai plus tard, il y aura en particulier la méditation aussi, entre autres, d'un psaume. Ça je le dirai à la fin de l'enseignement, je l'expliquerai un petit peu. Comme beaucoup de personnes qui viennent pour les rencontres de Parel n'arriveront que demain, j'ai préparé deux introductions à ces enseignements un peu différentes. Aujourd'hui, et demain, je les ferai d'une façon peut-être plus personnelle ou un peu plus développée pour le premier enseignement de demain matin. Aujourd'hui, pour parler des psaumes, en lien avec la miséricorde et avec le cœur de Jésus, je voudrais entièrement m'inspirer, ou presque entièrement en tout cas m'inspirer, d'un texte remarquable qui était sorti pour l'année jubilaire de la miséricorde, publié par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, et où il était question des psaumes de la miséricorde, justement, qui devaient aider les pèlerins et tous ceux qui vivaient cette année jubilaire de la miséricorde à méditer, à vivre des étapes diverses tout au long de l'année. Et donc je lirai une partie de l'introduction de ce document, donc rédigé par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, et après quoi, selon le temps qu'il nous restera, je voudrais parcourir, en émaillant peut-être de quelques commentaires, deux psaumes qu'on peut considérer à bon droit comme psaumes de la miséricorde. Alors l'introduction du texte en question commence avec une citation des Confessions de saint Augustin. C'est un saint Augustin qui parle. Combien ai-je pleuré en écoutant ces hymnes et ces cantiques à ton honneur, profondément touché par les voix de ton Église qui chantait si doucement. Ces voix vibraient à mes oreilles et la vérité pénétrait mon cœur, et tout se transformait en sentiment d'amour, me procurant de la joie au point d'en faire jaillir des larmes. Telle est donc la relation de saint Augustin avec les psaumes. Par ces mots, donc, d'une grande intensité, saint Augustin raconte la fascination que l'Église en prière a exercée sur sa vie, avec une forte incidence du chant liturgique, une forte incidence sur sa conversion, justement. Le livre des psaumes a toujours suscité une étonnante force d'attraction, parce qu'on y retrouve tout d'abord un large éventail des sentiments humains, louange et joie, tristesse et angoisse, force et faiblesse, victoire et défaite, confiance, désespoir, chaque expérience de la vie, de la plus belle et exaltante à la plus terrible, y est poétiquement dépeinte. Et ce n'est pas un hasard si saint Athanase, docteur de l'Église, parle des psaumes comme du livre des mouvements de l'âme, du berceau de la vie morale et du miroir de l'âme, tant les psaumes suscitent le désir des vertus. Bien que toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, soit diversement inspirée, ce livre est pour ainsi dire un riche jardin où l'on peut cueillir les fruits de tous les autres textes inspirés. Ces paroles-là sont donc prises de la méditation de saint Athanase sur les psaumes. Une interprétation christologique, c'est-à-dire centrée sur le Christ, et voyant dans le Christ l'accomplissement du sens même des psaumes, une interprétation christologique des psaumes se diffuse dans l'Église des premiers siècles, où les psaumes étaient compris comme la voix du Christ total, c'est-à-dire lui, la tête, et tout son corps, dont nous sommes les membres, le corps mystique, l'Église. On entend dans la voix de David, alors c'est l'auteur traditionnellement supposé des psaumes, même s'il n'est évidemment pas l'auteur de tous les psaumes, on entend dans la voix de David celle de Jésus, et avec la voix de Jésus, on entend la polyphonie de tous les membres du corps du Christ. Les psaumes ont été largement commentés dans cette perspective spirituelle. S'il fallait établir un classement des livres bibliques préférés, commentés par les auteurs chrétiens, le livre des psaumes occuperait l'une des premières places. À côté d'autres livres, alors peut-être plus illustres, le livre du prophète Isaïe, le Cantique des Cantiques, bien sûr les Évangiles. Mais surtout, c'est le Christ qui donne le sceau final, la plénitude du sens, l'épanouissement total, on pourrait dire divin et humain, au psaume. Et là, le texte du Conseil pontifical dit « Le Christ ressuscité lui-même, apparaissant à ses disciples, leur avait indiqué les psaumes non seulement comme le lieu pour retrouver les traces de son passage, mais surtout comme la clé d'interprétation, pour le reconnaître vivant et agissant dans l'Église. » Voilà ce que dit Jésus, ressuscité aux apôtres, au chapitre 24 de saint Luc. « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » La fascination pour le livre des psaumes traverse les siècles et elle parvient jusqu'à nous, montrant toute sa richesse spirituelle à l'homme d'aujourd'hui, affamé d'intériorité et de sens authentique de la vie. On puise toute cette richesse dans la lecture et dans l'étude du psautier, aussi bien personnellement qu'en communauté. Cependant, cette richesse s'offre tout particulièrement à la prière des chrétiens dans la liturgie des heures. Voilà ce que dit la présentation générale de la liturgie des heures, parlant des psaumes. Dans la liturgie des heures, l'Église prie en grande partie avec ses chants magnifiques composés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint par les auteurs sacrés de l'Ancien Testament. Celui qui psalmodie dans la liturgie des heures ne psalmodie pas tellement en son propre nom qu'au nom de tout le corps du Christ qui est l'Église, et même en tenant la place du Christ lui-même. Pour le dire un peu autrement, comme Augustin le dira d'une autre manière aussi, en fait c'est le Christ qui prie en nous. Et particulièrement lorsque l'Église prie les psaumes, c'est le Christ qui prie en nous. Demain, dans l'autre introduction que je ferai pour le premier enseignement, donc des rencontres de Paray, je parlerai un peu plus sur cet aspect-là. Comment les psaumes ont été véritablement ce qu'on pourrait dire la chair de la chair du Christ et le cœur de son cœur. Je rappellerai simplement, mais là je ne le fais que mentionner, n'oublions pas que 3 des 7 dernières paroles du Christ en croix sont tirées des psaumes. Et bien sûr, il ne les a pas citées à ce moment-là pour faire un enseignement ou une exégèse. Il les a citées parce qu'elles jaillissaient de son cœur broyé par la souffrance. Donc les psaumes étaient profondément imprimés en lui, c'était dans sa nature, on pourrait presque dire. On appelle le psautier en hébreu Sefer, qui veut dire livre, et Tehillim, livre des louanges. Donc c'est la louange ici, l'idée de la louange qui prime, même par rapport au psaume un peu désespéré, ou au psaume dans la détresse, qui crie de supplication. Parce que dans les psaumes sous-jacents, il y a toujours cette louange, au moins implicite, c'est que Dieu entend. Même lorsqu'il semble ne pas entendre, même lorsqu'il semble complètement effacé. Et d'ailleurs, ce n'est pas le Conseil pontifical qui le dit là, mais c'est une constante dans certains psaumes, surtout des psaumes de combat ou de détresse, où le psalmiste fait le constat de la défaite et donc pourrait entrer dans une forme de désespoir. Souvent, ces psaumes se terminent justement avec cette invocation, quels que soient les versets qui précèdent, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Amen. Amen. » Et la tradition juive dit que dans ce double « Amen », ça veut dire « Amen », oui, « Amen » dans l'épreuve, dans la déréliction, et « Amen » dans la joie et dans l'exultation. De toute façon, et là on rencontre vraiment Job aussi, c'est la spiritualité du livre de Job, en tout cas au début. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, livre de louange. Et en grec, donc, psalmos, c'est-à-dire le chant. Alors, il est vrai que le livre de Daniel mentionne plusieurs instruments de musique, parmi lesquels, justement, le psaltérion, ou la lyre, qui accompagne la déclamation des psaumes. Le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments qu'on retrouve en tête pas dans la version liturgique, mais dans la version des Bibles hébraïques ou de la Tobe en italique, voilà, sur un air comme ça de David ou sur tel air avec accompagnement de cor ou de harpe ou de ceci ou de cela, ou cornemuse. Dans l'esprit de la Bible grecque, les psaumes et la musique sont indissociables. Dans le livre des Chroniques, par exemple, on présente les Lévites comme des chanteurs et des musiciens, alors qu'ils sont d'abord liturges, prêtres ou sacristains. Eh bien, des chanteurs et des musiciens, même si cela ne signifie pas pour autant que la récitation des psaumes fut toujours accompagnée d'un instrument. Les psaumes ont été composés en hébreu dans une période qui oscille entre 6 et 8 siècles. Et était largement utilisé dans la prière de la communauté. Alors la tradition dit de chacun des psaumes, psaume de David. En fait, il y a 73 psaumes sur les 150 qui sont attribués à David. Mais là aussi, ce n'est pas d'une historicité absolue. Mais on peut dire que David est en quelque sorte comme l'auteur spirituel, le père spirituel de tout ce qui concerne les psaumes, puisqu'il a été vraiment présenté comme le chantre en Israël, des merveilles de Dieu. Alors, déjà dans la tradition juive, le livre des 150 psaumes est réparti en 5 livres. La présence de 5 livres met en évidence la volonté des derniers rédacteurs de relier le psautier aux 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch, lui donnant une valeur analogue de fondement. Ça, je le rappellerai demain, mais je le dis déjà aujourd'hui. Je rappelle que le Pentateuch, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, sont considérés comme paroles directes de Dieu, gravées par le doigt de Dieu sur la pierre. Et alors, à cette parole directe, la réponse de l'homme, en 5 parties, c'est précisément le psautier. Et donc, dans l'ancienne exégèse, déjà juive, de considérer les 5 livres, enfin les 5 parties des psaumes comme une réponse au Pentateuque, donne au psaume une valeur analogue de fondement, comme si on ne pouvait pas séparer les deux. Puisque l'on raconte dans le Pentateuque les débuts de l'histoire du salut, la création, l'élection, l'esclavage, la libération, le don de la loi, l'itinéraire spirituel du juif pieux est ainsi lui aussi inscrit dans le psautier. Et alors, il faut en particulier citer le psaume 150 qui conclut le tout. À vrai dire, le psaume 150 n'est pas tellement un psaume en lui-même. C'est une immense doxologie. Une doxologie, c'est ce qui vient à la fin des psaumes, lorsqu'on dit gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ou alors lorsqu'on dit rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. Le psaume 150 est considéré comme la doxologie de l'ensemble du psautier. Donc la louange qui achève ces livres de psaumes, et tout le psaume 150 surtout, qui est une hymne totalement doxologique, atteste le point d'arrivée vers lequel tend toute la description psalmique. C'est-à-dire que malgré l'épreuve, l'infidélité, le péché du peuple, le péché des individus, la promesse du Seigneur demeure stable, assurant aux Israélites de retrouver la santé du corps et la communion de l'esprit. Arrivé à cet endroit-là, je propose déjà de lire tout simplement ce psaume 150 comme une sorte de célébration. Alors évidemment, il commence, on est en plein carême, ça commence par Alléluia, c'est le grand Hallel, voilà. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Et donc là, il y a une véritable célébration quasiment cosmique. D'abord, la célébration du peuple d'Israël dans l'exultation, d'arriver finalement au terme, mais il y a une dimension cosmique. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Et on pourrait dire que ce psaume, dans sa sobriété, mais en même temps dans son intensité, trouve tout son accomplissement eschatologique, dirons-nous, c'est-à-dire les choses qui touchent la fin des temps, la création nouvelle, et bien dans les nombreux passages de l'Apocalypse où il est dit que les saints, la multitude qui entoure le trône et les myriades d'anges célèbrent le Seigneur. Puis il y a des instruments aussi qui jouent, les trompettes en particulier. Donc une immense symphonie de louanges qui est exprimée dans l'Apocalypse et qui pourrait bien avoir sa racine profonde dans l'Ancien Testament avec ce psaume-là. Alors quelques considérations encore dans cette introduction un petit peu générale, forcément pas du tout exhaustive, des psaumes, et toujours en m'inspirant du texte du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le psautier raconte l'homme, ce qui explique la richesse infinie du symbolisme utilisé. Une expression qui est devenue célèbre estime que les 150 psaumes constitue comme un microcosme qui rassemble tout le panorama de l'être humain dans son unité psychologique et physique. L'homme est esprit, cœur, imagination, et lorsqu'il pense à Dieu et vit sa propre foi, il le fait avec tout son être. Maintenant, Et là, ça se réfère plus à l'année du jubilé de la miséricorde, mais ça nous concerne aussi parce que nous sommes en plein carême maintenant, et où nous attendons sans cesse, nous allons à la rencontre de la miséricorde avec tous les textes qui nous sont donnés, les psaumes, et en particulier les évangiles, l'évangile du Fils prodigue, entre autres. La miséricorde est l'une des principales caractéristiques divines mises en évidence dans le psautier. Il y a des poèmes que l'on peut appeler psaumes de la miséricorde, marqués par l'agir amoureux du Seigneur, avec lequel il s'adresse aux fidèles. Le mot miséricorde, en hébreu chesed, est riche de significations. Tendresse, grâce, miséricorde, indulgence, bonté, bienveillance, amour. Ce vocabulaire révèle un aspect étonnant de Dieu, qui ne nous viendrait peut-être pas spontanément. On parle toujours de Dieu comme Père, mais là, c'est la dimension, l'aspect de la maternité. La miséricorde divine, la chesed divine, demeure en quelque sorte dans le sein, dans les entrailles maternelles de Dieu sont émues au point de pardonner le grand péché commis. Et ça, c'est évidemment le magnifique psaume 102. Si nous avons le temps, nous le lirons, mais sinon, vous pouvez le retrouver. 102, c'est la numérotation liturgique. Dans la Bible, c'est 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, il pardonne toutes tes offenses, il réclame ta vie à la tombe, etc. Il met loin de toi le péché, il sait que nous sommes poussière, etc. » Voilà. Donc, les entrailles maternelles de Dieu sont émues au point de pardonner le grand péché commis. Pour le monde biblique, la partie la plus intime où siègent les sentiments est justement le ventre ou les entrailles, ce qui laisse apparaître un lien très fort entre la miséricorde et l'engendrement. Enfanter la miséricorde signifie en fait mettre au monde la vie. D'ailleurs, c'est dans le très célèbre tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue. Vous connaissez bien ce symbolisme, le père est là, il accueille le fils, et ses deux mains sont sur le dos du fils qui lui est à genoux devant lui, et qui se réfugie en son sein. Alors il y a une main qui est très masculine, large, la main de l'ouvrier ou du fermier, mais en même temps pleine de force, de vigueur, qui rassure. Mais l'autre main... Justement, il n'y a pas de symétrie entre les deux mains. L'autre main a un aspect très féminin, justement, comme une caresse. Les deux aspects, donc, de la miséricorde de Dieu. Et là, c'est dans cet évangile particulièrement à quel point on voit que la miséricorde, que le Dieu miséricordieux met au monde la vie, une vie nouvelle. Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Un mot encore sur les psaumes qui donnent voix à l'homme et donc aussi à son corps. L'origine des psaumes se situe dans le monde hébraïque, sémitique. C'est justement à travers son corps et ses membres que la prière va trouver ses tonalités, ses rythmes, ses temps, ses espaces. Non pas que l'âme et l'esprit ne soient pas impliqués, mais la Bible a une vision charnelle de l'homme, dans le sens le plus spirituel du terme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de corps privé d'âme, ni d'âme privée de corps. Lorsque l'homme prie, aime, souffre, loue, en un mot, lorsqu'il vit, il le fait avec toute sa personne, dans sa totalité psychologique et physique. Peut-être qu'avec le temps, une certaine vision chrétienne s'est trop appuyée sur la seule dimension rationnelle, passant au second plan la dimension corporelle, laissant même supposer que la forme de prière la plus noble serait celle de la pensée. Mais avec les recherches modernes et toute la réévaluation et la découverte de l'anthropologie biblique, c'est au contraire la chair de la foi qui a été mise au centre, et avec elle toute l'épaisseur existentielle qui traverse les grands récits de la Bible, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Les psaumes donnent voix au corps et sont donc la prière du corps. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit qui montre que c'est le corps même qui prie. Le corps est le lieu de l'âme, la prière traverse donc tout ce qui s'y produit. Et donc il y a un psaume qui dit « Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi ?» Là, il ne dit pas mon esprit, mon âme, mon cœur, tous mes os, toutes les fibres de mon être. Et c'est extrêmement bienfaisant. Dans un ministère, par exemple, de guérison, justement, on demande que toutes les zones de l'être soient visitées. Les psaumes peuvent jouer un rôle extraordinairement fort, là, parce qu'ils touchent toutes ces zones de l'être. La zone, donc, charnelle, on l'a vu, la zone affective, la zone des sentiments, la zone de l'intelligence, du cœur, et puis la zone la plus sacrée, qui est le sanctuaire dans le cœur humain du dialogue permanent avec Dieu, de la relation, de la présence de Dieu, le lieu aussi de la conscience. Et en ce sens-là, le psautier est d'une richesse extraordinairement, on pourrait dire aussi au sens très large, bien sûr, thérapeutique. Alors, ayant dit tout cela, nous comprenons à quel point les psaumes s'accomplissent pleinement en Jésus. Cet aspect-là, j'y reviendrai un peu plus longuement demain, dans mon introduction du premier enseignement. Mais ayons simplement en tête que l'accomplissement de toute l'Écriture, de toute façon, se situe dans le cœur de Jésus, puisqu'il est le cœur du Verbe, l'auteur premier des Écritures. Et lorsqu'il est transpercé, comme dit saint Thomas d'Aquin, repris par le catéchisme de l'Église catholique, avec la passion et le transpercement du cœur, le voile qui voilait un petit peu le sens plénier des Écritures est déchiré. Et là, le sens total des Écritures est donc ô combien des psaumes est pleinement accompli. Dans le temps qui nous reste, alors que je voudrais justement que ce ne soit pas uniquement un enseignement, mais déjà une petite célébration, je voudrais lire le psaume 33. Dans la liturgie, c'est 33. Dans la Bible, c'est 34. Qu'on peut considérer comme un psaume de miséricorde, de délivrance, de confiance profonde. Mais si je le cite ici, c'est parce que, justement, un des derniers versets, c'est celui que cite Jean lui-même au chapitre 19, en rapport avec le cœur transpercé de Jésus. Donc je propose que nous écoutions ce psaume un petit peu dans la lumière, dans le rayonnement du cœur ouvert de Jésus. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. On trouve là toute la dimension de la louange et on peut imaginer justement, on voit même quand on voit même dans l'Israël moderne, quand on va au mur occidental, quand on voit les juifs très pieux prier, eh bien ils dansent. Ou alors il y a ce balancement. Le corps est très impliqué. Il y avait d'ailleurs pendant un temps, ça continue toujours pour certains, cette recherche du père Jousse, qu'on a appelé la rythmocatéchèse, qui essayait de retrouver, c'est ça, l'expression par le corps, au rythme même des versets. Le père Jousse, lui, il faisait lire l'Évangile comme cela, avec ce rythme qui engageait tout le corps. Et les gestes aussi, qui donnaient un sens profond à ce qui était dit. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Alors là, je cite simplement ce que j'avais bien aimé, un commentaire d'un célébrant avec qui j'avais concélébré, il y avait ce psaume dans les liturgies, et me dit en fait, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, peut aussi être une allusion très lointaine, en tout cas au niveau de l'interprétation, à l'autre verset que cite saint Jean, ils regarderont. ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc cela veut dire, qui regarde vers le cœur transpercé de Jésus, finalement resplendira. Irradié par cette flamme d'amour, cette fournaise ardente, sans ombre ni trouble au visage, lieu de guérison, la blessure du cœur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Alors il y a presque littéralement une traduction historique de cela, enfin dans les événements, dans les actes des apôtres, il y a deux passages. L'ange du Seigneur qui vient miraculeusement délivrer les apôtres qui sont en prison pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle au temple. Et puis un peu plus tard, Pierre en prison, littéralement condamné à mort par Hérode. On attend son exécution. Eh bien, l'ange vient de nuit le libérer. C'est tout à fait littéral, ça. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Alors ensuite, il y a l'exhortation, peut-être un peu plus morale. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Parfois c'est difficile, lorsqu'on est en conflit, lorsqu'on est dans une espèce de tourment intérieur, ou ballotté, ou secoué, ou criblé. Alors là, c'est de nouveau regarder Jésus dans sa passion, Jésus en croix. Insulté, il ne rendit pas l'insulte, s'en remettant à Dieu pour le jugement. Garde ta langue du mal, l'accomplissement absolument parfait et qui nous sauve de cela, c'est Jésus qui le vit. C'est lui seul qui a pu mettre en pratique, avec la Vierge Marie, mais elle c'est par grâce, qui a pu mettre totalement en pratique cette injonction qu'aucun n'a pu véritablement vivre dans la perfection. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Jusqu'au bout, Jésus a poursuivi la paix. Même il n'a pas refusé le dialogue, même avec Pilate, ou même avec le garde dans la cour du grand prêtre qui l'a frappé. Pourquoi me frappes-tu si j'ai bien parlé? Aucune impatience, aucune acrimonie. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Voilà la miséricorde, la compassion, la condescendance au sens premier de Dieu qui descend. Un peu comme il voit, vous savez, dans le livre de l'Exode, Dieu voit la misère de son peuple en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple, ses souffrances. Et alors je suis descendu. Et la condescendance, c'est ça. C'est Dieu qui descend au niveau d'eux, avec nous, à notre niveau. Donc, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le juste par excellence, donc le Christ dans sa passion, c'était malheur sur malheur. Un océan d'amertume et de souffrance. Et enfin, voilà le verset qui sera cité par saint Jean. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Alors évidemment, là c'est très prophétique. Le juste en question, dans le psaume, c'est une sorte de figure mystérieuse d'un serviteur souffrant. C'est l'ébauche de la figure du serviteur souffrant qui s'épanouira pleinement dans les chapitres 53 du livre d'Isaïe. Mais là déjà, un juste qui est injustement persécuté, alors qu'il est juste. Le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. les eaux qui structurent la personne, on l'a vu tout à l'heure, qui sont signes aussi de vie. Mes eaux te chantent, Seigneur, te magnifient. Pas un ne sera brisé. Alors évidemment, ça coïncide tout à fait avec l'événement du Golgotha. Les soldats venus à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats de sa lance lui perça le côté. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Donc voilà ce psaume dont un verset a inspiré saint Jean dans la contemplation donc du cœur transpercé. Au-delà même du verset, évidemment saint Jean voyait le juste persécuté, qui vivait des malheurs, mais qui est cependant préservé par Dieu. Et par la résurrection, bien sûr, le cœur broyé de Jésus va retrouver pleinement tout son épanouissement, un cœur resplendissant de reconnaissance, d'action de grâce. Voilà, la liturgie de la résurrection de Pâques met sur les lèvres du Christ ressuscitant les paroles du psaume 138, entre parenthèses 139, « Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille, je suis encore avec toi. » Nous n'avons pas le temps de lire le psaume 102. Vous le connaissez, vous pouvez même le lire comme pour ceux qui font l'ensemble des rencontres. Considérez ça comme une petite récollection. Prenez le temps de le lire ce soir, peut-être même devant le Saint-Sacrement. Dans la Bible, c'est 103. Dans la liturgie, c'est 102. Dans les psautiers orange, c'est 102. Et lisez-le surtout en rapport avec cet évangile que nous venons de lire dimanche. Le retour de l'enfant prodigue vers le Père et l'accueil que fait le Père. Ce pardon absolument total qui engloutit le péché. Voilà. Que chaque verset de ce psaume résonne en vous en rapport avec cet épisode évangélique. Dans un instant, nous allons commencer l'heure sainte. Donc le Saint-Sacrement va être exposé. Aujourd'hui, il y a un petit ajout dans la méditation. Après chaque proclamation de la parole, donc du récit de l'agonie, je vais prendre quelques versets d'un psaume. C'est le psaume 88 dans la Bible, 87 dans la liturgie. Alors c'est un psaume de grande détresse. C'est le psaume que l'Église récite tous les vendredis soirs accomplis, en faisant mémoire de la Passion. Alors, il est vrai que ce psaume, au sens plus strict, disons, de son application, ferait plutôt penser, enfin en tout cas en Terre Sainte, pour les pèlerins de Terre Sainte, ce psaume est lu et médité dans la cour du grand prêtre, à Saint-Pierre-Galicante, et surtout dans les cavités, là où il y a une sorte de puits, là où on suppose que notre Seigneur a passé cette nuit terrible, atroce, de souffrance, enchaînée. Et ce psaume est vraiment presque littéralement s'applique à cette situation du Christ. Et cela se passe aussi dans la nuit du jeudi au vendredi. Et cependant, tous les versets de ce psaume peuvent s'appliquer au sentiment que déjà le Christ éprouve forcément à Gethsémani, où son cœur est comme presque englouti par une angoisse qui le submerge totalement. Donc toutes les paroles de ce psaume s'appliquent aussi bien au Christ à Gethsémani qu'au Christ, effectivement, vivant une situation de détresse physique, cette fois-ci matérielle, dans la cave de la maison du grand prêtre.